J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Il but de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canus. Si vous nous rejoignez, vous avez pu profiter des bandes de continue de la plus rebelle des radios sur le 102.2, à moins que vous nous écoutiez en direct grâce à vos machines portables ou PC ou enfin tout ce que vous avez. Donc en streaming, je suis donc ce soir avec Laurent, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Nous sommes ensemble pour un Canu Info pour ce jeudi 19 juillet 2018. Et comme nous vous le disions la semaine dernière, nous aurons une grosse partie de ce Canu Info consacrée à notre déplacement, à notre visite aux rencontres d'Arles, 49e édition, donc festival de photos qui se tient donc à Arles, vous l'aurez compris. Mais pour commencer, nous allons parler de la vie en Macronie. Et je tiens à signaler que ce petit passage de Laurent s'appelle le paf dans ta gueule. Moi, j'aurais ajouté paf, pif, pouf, paf, clac, boum, dans ta gueule. Voilà, ça, toi qui vas commencer avec ce sujet. Je ne sais pas de quoi tu vas nous parler. J'ai bien quelques petites idées quand même. Ensuite, nous irons du côté des profiteurs et nous parlerons de Ryanair cette semaine. Nous irons parler un petit peu de la manière dont ils profitent chez Ryanair. Je parle de ils parce que ce sont des hommes qui sont à la tête, en tout cas un homme à la tête de Ryanair. Et puis nous parlerons d'une grève qui se prépare. Nous irons en Israël. Vous avez certainement entendu passer qu'il y a une loi plus que polémique qui est... Donc c'est de ça dont Laurent va nous parler ce soir. Nous parlerons des barbares, mais nous ne parlerons pas de la peine de mort d'être humain ce soir. Nous parlerons corrida. Aïe, aïe, aïe. Et nous ferons un petit tour aussi du côté de polémique sur les barrages et sur EDF. Avec EDF, tu me diras, les polémiques, c'est facile. Mais tout de suite, nous commençons et nous attaquons avec la vie en Macronie.
Oui, alors c'est quand même l'affaire du moment. Alors du coup, on n'est pas les seuls à en parler cette fois-ci.
Ah bah non, mais on ne pouvait pas faire l'impasse quand même.
Non, c'était difficile, surtout que ça a pas mal évolué entre hier soir, les premières grosses révélations, et cet après-midi, l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris, pour notamment violence par personne chargée d'une mission de service public. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, c'est usurpation de fonction. Alors, on n'a pas compris pourquoi, mais l'espèce de petit bonhomme d'extrême droite qui nous sert de ministre de l'Intérieur a même dit qu'il demanderait à l'IGPN d'enquêter. Alors, l'IGPN, on ne sait pas pourquoi, parce que l'IGPN, c'est les boeufs carottes, c'est la police des polices. Ça concerne, c'est quand des flics sont mis en cause dans, par exemple, des violences, comme à Lyon, là, il y a encore un gamin qui a eu un problème, qui a perdu peut-être un œil avec des flashballs. C'est plutôt pour ce genre de truc. Or là, la personne dont on va parler, qui s'appelle Alexandre Benalla, ben, il n'est pas policier. Alors, soit Colomb a une fatigue passagère liée à la chaleur estivale, soit j'ai pas de réponse, en fait. Je crois qu'il faudrait juste peut-être changer de personnel là, à l'Élysée et aussi au sein du gouvernement. Donc, cette enquête qui est confiée à la brigade de la répression de la délinquance contre la personne, ça vise donc Alexandre Benalla, que nous ne connaissions pas avant hier soir, mais depuis hier soir nous connaissons beaucoup de choses de sa vie. Donc il a été on a tous, vous avez peut-être vu cette vidéo, hein, dans les manifs du 1er mai. Donc d'abord, c'est un collaborateur, hein, de l'Élysée, plus particulièrement de Emmanuel Macron. Il a demandé à participer en tant qu'observateur aux opérations de maintien de l'ordre lors des manifestations syndicales du 1er mai dernier. Donc c'était un jour de congé, il était là en observateur, donc officiellement il était avec les forces de répression, la police. Il lui avait donné un casque et il avait même un bel écusson dans la police pour dire tapez pas dessus les gars, c'est un flic. Ou s'ils sont contre donner ça, ils auraient dû mettre presse, parce que là ça donne envie peut-être aux manifestants de lui taper dessus. Mais bon, c'est pas ce qui lui est arrivé, puisqu'il s'est passé l'inverse. C'est qu'il a tabassé quelqu'un qui était à terre, donc il a roué de coups. Alors qu'il était là en observateur, c'est donc un observateur participateur, hein, on va dire. Et puis il a roué de coups, donc en tant qu'être humain, puisqu'il n'était pas, il est en congé, donc c'est lui-même qui a roué de coups. L'Élysée, c'est-à-dire Monsieur Macron et ou le Premier ministre, on ne sait pas, on n'a pas les infos exactes, parce que bien évidemment, il ne parle pas, il communique très peu là-dessus, on ne les a pas entendus donner la vraie version. Eux s'en sont rendus compte. On ne sait pas qui, mais s'en sont rendus compte, puisque ce monsieur Alexandre a été suspendu pendant une quinzaine de jours, deux semaines, du 4 au 19 mai. Donc, pour l'Élysée, pour l'État français, nos chefs, là, Macron et son Premier ministre, quand quelqu'un tabasse quelqu'un d'autre, on le suspend 15 jours de son travail. Voilà. Et puis, bon, bah, hier, la vidéo est sortie, révélée par Le Monde. Et depuis, ils sont coincés, parce qu'ils ont fait comme d'habitude, hein, c'est soi-disant une politique différente avec un gouvernement différent, mais c'est un gouvernement identique aux autres, qui fait la même politique libérale que les autres et qui protège ses copains comme les autres. Donc, bien évidemment, quand on est témoin de violence sur autrui, on n'a pas à faire justice soi-même, c'est interdit. C'est hors la loi, même pour un président de la République. On ne doit pas faire justice soi-même, on doit dire à la justice ce qui s'est passé pour que la justice puisse juger, puisque la justice en France, dans une démocratie comme chez nous, est seule apte à juger. Alors plus ou moins bien, vous direz, mais bon, voilà. Eh bien non, l'Élysée a estimé qu'il ne fallait pas que ça passe devant la justice. Un petit blâme et 15 jours de suspension suffisait. Bon, aujourd'hui, ils ont essayé de régler le problème, parce que c'est la panique générale, hein. C'est Bruno Roger Petit, qui est le porte-parole de l'Élysée, qui a essayé de faire une explication un peu brève, en disant, voilà, c'est ça, on a suspendu, on a fait ça, on a fait ça. Faut savoir que finalement, plein d'autres infos sortent. D'abord, c'est pas la première fois qu'Alexandre Benalla est suspecté, voire on a des preuves comme quoi il tabasse les gens. Alors, il est membre de la sécurité aussi. Donc, a priori, il est habitué aux opérations coup de poing, hein, puisqu'on a eu plusieurs témoignages. On va en citer juste quelques-uns. Le 16 novembre 2016, donc Macron n'est pas encore président de la République, il est en campagne, et donc il va faire une visite dans un atelier automobile de Bobigny, et là il y a quelqu'un qui est membre des Jeunesses communistes, dont on n'a pas le vrai nom d'ailleurs, qui essaye d'intervenir pour interpeller le candidat sur, j'imagine, la situation sociale, tout ça. Et ben voilà, lui il se fait tabasser. Alors on le sait. On sait pas. Alors, il le révèle aujourd'hui, il le redit aujourd'hui. Alors, il le révèle pas aujourd'hui, puisque on a retrouvé des traces. Hein, il y avait des journalistes qui étaient là, donc il avait témoigné aux journalistes, et un seul journaliste en avait parlé brièvement. C'était la journaliste de l'Humanité, qui avait effectivement constaté qu'il y avait eu des violences Alors, il y a eu plein d'autres affaires, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'on note, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était repéré depuis un petit moment. Il s'était fait virer par le Manuel Valls, alors qui était déjà quelqu'un d'ultra-autoritaire. Vous imaginez, si Manuel Valls, en 2012, l'a viré, c'était plus que quelqu'un de violent. Donc voilà, il y a eu plein d'autres affaires. On s'en rend compte maintenant, ça veut dire que si nous, on s'en rend compte, parce que les journalistes les révèlent. Les gens qui travaillent avec lui sont au courant depuis longtemps, il est vraiment protégé, il doit être copain, c'est pour ça que personne ne l'a balancé à la justice. Là, ils sont coincés, on espère que ça fera tomber, pas que lui, parce que à la rigueur, on s'en foutrait presque, enfin, il mérite la condamnation qu'il mérite, mais on aimerait que ceux qui l'ont protégé tombent, et je suis prêt à vous parier que ceux qui l'ont protégé, parce que ça va monter super haut, forcément, c'est là-haut, hein, au château, là où il y a Emmanuel Macron et le Premier ministre, et ben eux, ils tomberont pas, et pourtant, ils en sont largement responsables, puisqu'ils ont refusé de donner des informations à la justice à l'époque.
Et ben,
j'en dis pas plus. Hein,
ouais, non, je vais laisser un petit blanc pour laisser les personnes qui nous écoutent respirer. Je vais donc poursuivre avec les profiteurs de la semaine. J'ai donc nommé Ryanair. Ryanair, je vous rappelle, c'est une compagnie à bas prix aérienne irlandaise. Mais quand je dis irlandaise, c'est maintenant une multinationale, mais qui profite de la fiscalité irlandaise. Parce que si ça s'est créé par là-bas, en haut, au nord, aujourd'hui, c'est bien pour la fiscalité que Ryanair reste bien implanté sur ce territoire irlandais. Alors, juste, je vais mettre du contexte. D'abord, pour la deuxième partie de mon propos, je vais rappeler juste que les grèves, c'est pas toujours Air France, c'est pas toujours la SNCF. Il y en a aussi à Ryanair. Et c'est ce qui m'a, à la base, intéressé aujourd'hui. Mais en faisant ce petit sujet, j'avais envie de revenir aussi sur comment ça se passe aujourd'hui à Ryanair et comment ça va. Alors, il faut savoir que chez Ryanair, il y a des revenus, des recettes de différents types. D'abord, on vous trimballe d'un point A à un point B avec un petit avion. Hein, ça, c'est l'activité
principale.
Première. Mais il y a une hausse des revenus auxiliaires, des recettes auxiliaires assez importantes. Alors, tout ce qui est auxiliaire, c'est quoi? C'est la location de voiture, par exemple. Ah bah oui, parce que maintenant, toutes les multinationales, tous les groupes vous proposent des services annexes. C'est le fait que vous payez pour embarquer plus vite que votre voisin. Que vous ayez réservé tel siège ou tel autre, ça c'est pas du transport, c'est tout ce qui est annexe, hein, voyez. Donc ça augmente, parce qu'évidemment quand on est sur du bas coût, eh ben, on vous fait payer tout ce que les autres nous pouvons payer dans un prix plus classique, on va dire, mais on vous saucissonne, hein, les services pour vous les faire payer un par un, ce qui au final peut vous venir parfois assez cher. Et puis chez Ryanair, on peut noter quand même une chose, c'est qu'il y a une progression du nombre de voyageurs assez importante, et tout ça amène quand même à une forte augmentation entre avril 2017 et mars 2018, hein, donc on prend sur cette année-là, pour rapport, sur ces 12 mois, il y a 130 millions de passagers qui ont utilisé Ryanair. C'est 9% de plus que leur exercice précédent. Donc, quand on sait que au niveau de l'aérien, ça se passe pas bien, on peut dire que du côté de Ryanair, c'est plutôt une belle réussite. Il faut savoir que la compagnie vise en 2024 200 millions de passagers annuels. Donc, il y a quand même encore une belle progression possible. Et puis, il faut savoir qu'à côté, Ryanair a baissé le prix de ses billets d'avion, 3% en moyenne. Ce qui fait que ça fait une moyenne à peu près à 39,40 €. Pas cher. Pas cher, pas cher, pas cher. Il paraît, d'après Ryanair, hein, c'est que c'est la compagnie à bas coût la moins chère avec laquelle vous pouvez aujourd'hui voyager. EasyJet à côté, c'est des rigolos, paraît-il. En tout cas, ça, c'est sur les propos de Ryanair. Pas sur EasyJet, c'est des rigolos. Quoique, on se demande quand même. Alors, il faut savoir, derrière, il y a d'autres moyens pour Ryanair de se faire de l'argent.
En dehors du prix du billet, forcément.
Oui, de tout ce qui, même ce que je viens de vous dire, c'est du prix du billet, du fait que vous payez pour des services,
pour les sièges, pour les bagages,
et que vous payez même pour louer une bagnole, enfin tous ces trucs-là, hein, tous ces trucs-là qui sont liés finalement à votre déplacement, à votre voyage, on va dire. C'est tout simplement le fait que Ryanair touche des aides publiques, alors soit en monnaie trébuchante, mais plus sûrement d'ailleurs sur une prise en charge des collectivités territoriales. On parle de 35 millions d'aides publiques en France. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la France qui
les impôts,
donne...
quoi, qui rentrent dans les caisses directement de Ryanair, au lieu que Ryanair...
Au niveau comptable, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Ce qui se passe en vérité, c'est qu'il va y avoir du personnel qui va être mis à disposition de Ryanair. Ryanair ne va pas payer ses salariés, ce sont les collectivités territoriales à travers des sous-fonctionnements. Hein, là, vous imaginez bien comment tout ça s'est construit. On parle de Beauvais, par exemple, de Montpellier. Il y avait eu pas mal d'enquêtes hein, sur ces questions-là. Pau s'était fâché avec Ryanair, avait refusé de payer puisque Ryanair ne cessait de demander des sous. Alors pourquoi les villes, elles payent, les municipalités, les collectivités territoriales? C'est parce que Montpellier, franchement, il faut avoir envie d'y aller en avion. Donc, on demande à Ryanair d'assurer des liaisons. Paris, Montpellier, Paris, Beauvais. Beauvais, franchement, en avion, voilà. Bon, c'est pas tous les jours qu'il y a... Enfin, il faut remplir des avions quand même. Donc, du coup, on incite Ryanair à se venir se poser là en lui proposant tout un tas de services. De la pub gratuite, du personnel mis à disposition, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, on l'a un peu subventionné aussi en donnant des sous. Tout ça fait que Ryanair fait partie de ces compagnies qui sont largement subventionnées, aidées par les collectivités territoriales, par de l'argent public, et donc, comme tu le disais, par nos impôts, tout simplement. Alors... Par exemple, il y a une filiale de Ryanair qui est basée sur l'île de Man et qui permet, c'est un paradis fiscal, ouais. Je vous le rappelle, et qui permet en fait à ce que des collectivités publiques françaises versent de l'argent. C'est-à-dire que des collectivités publiques françaises versent de l'argent à une filiale de Ryanair qui est dans un paradis fiscal. Là, quand même, on applaudit avec les deux mains, bien évidemment. Alors, il paraît que du côté de Ryanair, ce ne serait que du partenariat public. Pas de la subvention, il ne faut pas mélanger le vocabulaire, mais tout ça se passe un petit peu de partout en Europe, puisque de partout il y a des villes qui cherchent à être attractives, ces villes, et donc il faut avoir un aéroport, il faut avoir des avions qui se posent et qui décollent, et donc Ryanair fait partie de ces compagnies qui bénéficient de ces aides. C'est pas la seule, hein, voilà. Mais il faut savoir que Air France, c'était en 2011, il y a ici une plainte d'ailleurs qui est, il me semble, toujours en cours, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble, avait estimé que Ryanair touchait 660 millions par an de la part des gestionnaires d'aéroports dans l'ensemble de l'Europe, et donc avait déposé une plainte pour concurrence déloyale. Je fais très très vite pour expliquer l'histoire de la plainte, mais il y a pire, c'est que la Commission européenne parle de 750 millions annuels, ça c'était toujours en 2011. Depuis, Ryanair a toujours quelques soucis financiers, enfin en tout cas judiciaires, puisque... mais tout ça c'est toujours en cours. Hein, voilà. Bon, alors, maintenant que vous voyez, j'ai posé le truc, c'est-à-dire Ryanair, c'est une multinationale qui va bien, qui augmente son nombre de passagers, certes qui réduit le prix de ses billets, mais qui arrive à s'exempter d'un certain nombre de charges aux frais du contribuable européen d'une manière générale. Et ben il y a une grève. Une très 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 belle grève qui se profile les 25 et 26 juillet. Alors si vous étiez...
C'est dommage pour vous.
Passager, je suis absolument désolée parce que je me doute bien que quand on part en vacances en particulier, si c'est pour le boulot, tant pis pour vous ou votre patron, mais si c'est pour les vacances, j'entends bien que c'est dur, compliqué, d'autant plus que les premiers témoignages qui tombent sur cette grève font que les gens reçoivent un pauvre SMS leur disant d'aller regarder un mail, que des fois les gens ils n'ont jamais reçu ce mail, qu'ils sont obligés d'aller sur finalement internet, les applis, enfin tous ces trucs là, pour se percevoir que leur vol n'existe plus, puisque cette grève va toucher 100 000 passagers sur deux jours. C'est beaucoup, je vous le dis, c'est l'annulation de 600 vols, et c'est en fait le personnel de cabine d'Espagne, du Portugal et de la Belgique. Donc c'est-à-dire qu'avec... Il y a l'Italie aussi, il y a eu un dépôt de grève, mais a priori ça n'a pas changé grand-chose. Mais en tout cas, sur ces trois pays plus l'Italie, c'est 600 vols qui sont annulés, 100 000 passagers touchés, c'est beaucoup en période estivale, surtout 25-26 juillet, vous voyez, entre juilletistes, t'as aussi un petit peu le truc. Belle grève qui s'annonce. Alors... Il paraît que vous allez pouvoir vous faire rembourser, mais il y a déjà des témoignages qui commencent à tomber et qui disent que c'est pas si simple. Alors, c'est 5 syndicats qui ont lancé cet appel à la grève, donc du personnel de cabine hein, de Ryanair. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, le prix des billets a baissé, donc ça veut bien dire qu'à un moment, il y a bien des gens qui ramassent derrière.
Ah bah c'est alors, dans ces compagnies-là, et notamment Ryanair, c'est les salariés qui morflent.
Et puis, je vous rappelle
dites-vous, que... Dites-vous, hein, si on paye un truc pas cher... Ah bah, c'est qu'à un moment, il y a des gens qui bossent gratos ou pour pas grand-chose.
Alors, je veux bien croire que les compagnies aériennes se sont bien empiffrées pendant des années avant l'arrivée des bas coûts, bien évidemment. Mais enfin, ça a permis quand même aux des salariés aussi de pouvoir toucher... Ouais. Certes, vous allez me dire, les pilotes
d'Air
France sont extrêmement bien payés, tout ça. Mais enfin, on va arrêter de demander à ce que les gens soient moins bien payés. On va plutôt souhaiter que nous le soyons tous et toutes. Alors, il paraît que Kenny Jacobs, qui s'est exprimé dans un communiqué de la compagnie, c'est le directeur marketing, a expliqué que ces grèves n'ont aucune justification et aucun autre but que de gâcher les vacances familiales et bénéficier à d'autres compagnies. Donc vous qui faites grève, hein, vous le faites pas pour votre propre bien, mais pour gâcher les vacances des autres. Et puis parce qu'en fait vous avez des actions dans une autre compagnie aérienne et que vous voulez vous empiffrer. Ah bah, moi je le lis comme ça, hein, cette petite chose qui était dans le communiqué de presse de Ryanair. Il paraît qu'en fait ils sont tous très bien payés à Ryanair.
C'est ça, c'est bizarrement, c'est pas ce qu'ils laissent entendre les grévistes.
Ils font des drôles de moyennes, hein, je voulais vous dire, dans les communiqués. Effectivement, il y a des personnes qui doivent être mieux payées à Ryanair que d'autres. Je veux bien croire que le personnel de cabine ne fait pas partie des mieux payés de la compagnie. On peut penser que, justement, M. Kenny Jacobs, le directeur marketing, a un très bon salaire. Donc, si on équilibre tout ça, on peut penser qu'effectivement, bah, quand tu te fais une moyenne comme ça, hein, évidemment, on a l'impression que tout le monde est bien payé. Et puis qu'en plus, ils ont obtenu plein de choses. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu des soucis à Ryanair, il y avait eu des annulations de vol, parce qu'ils n'avaient pas assez de pilotes. Vous avez raconté ça sur cette antenne. Ça avait beaucoup râlé. Il y a même des gouvernements en Europe qui étaient montés au créneau pour taper sur les doigts de Ryanair, puisqu'ils avaient laissé en plan des passagers, des passagères, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs. Hein, ce n'est pas un problème de grève, c'est qu'il n'y avait pas assez d'effectifs. Bon, pour l'instant, Ryanair, côté syndicat, ce n'est pas tout à fait ça, puisque ces syndicats qui ont appelé à la grève ne sont pas reconnus par Ryanair. En début d'année, il y a un syndicat au Royaume-Uni qui représente 600 pilotes qui a été adoubé par Ryanair, mais c'est un peu le seul, hein, pour l'instant. C'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a des pilotes qui peuvent négocier, mais c'est-à-dire que le personnel de cabine n'est pas forcément comptabilisé là-dedans. Puis ça veut dire qu'en Europe, partout, il y a des syndicats qui sont un peu esselés, qui ne sont pas reconnus par Ryanair. En tout cas, Ryanair décide de ne pas les reconnaître. Jusqu'à présent, donc, il n'y avait pas de vraie représentation syndicale, par exemple, au Royaume-Uni. Maintenant, c'est le cas, hein. Pour les pilotes britanniques, c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut savoir que quand ça s'est passé, c'est parce que les pilotes, à cette époque, avaient menacé de faire grève. On était en plein pendant la période de Noël. Et Michael O'Reilly, le PDG, s'était dit, ça tombe très très mal. Voilà. C'était tout.
Alors, on va passer à cette fameuse loi israélienne. Alors, on la sentait venir, hein, il en était question depuis un certain temps. C'est fait, le Parlement israélien, la Knesset, a adopté aujourd'hui une loi qui définit le pays, donc c'est-à-dire Israël, comme l'État-nation du peuple juif. Donc, bien évidemment, il y a très peu de pays, hein, qui inscrivent dans leur loi que leur pays ne doit être constitué que d'un seul type de population ou de religion, parce que là, c'est à la fois c'est un peu les deux. Donc, ça fait réagir, tout le monde gueule, hurle dans tous les sens. En tout cas, c'est passé quand même. Alors, ça, c'est le premier truc, donc l'État-nation du peuple juif. On notera quand même que c'est l'État-nation du peuple juif, du peuple juif, de tous les juifs de la planète. Or, les politiques qui ont voté ça ont jamais demandé... D'abord, ils sont représentatifs, enfin, ils sont élus par les habitants d'Israël, donc juifs et non-juifs, et pas par les autres juifs de la planète. Donc là, ils sont en train de faire un truc au nom de l'ensemble des juifs de la planète, ce qui est relativement malhonnête quand même, il faut le dire. Alors ensuite, ils ont fait autre chose, il y a plein de choses dans cette loi. La loi déclare aussi que l'établissement de localités juives sur les territoires israéliens relève de l'intérêt national, on s'attendait pas à mieux, et que Jérusalem, donc Est et Ouest, c'est-à-dire la partie colonisée et la partie du côté juif, c'est la capitale officielle d'Israël. Donc voilà, c'est assez triste. Alors il y avait un article qui évoquait la possibilité de créer des localités exclusivement réservées aux Juifs. Ça n'a pas été voté. Donc là, ils créent vraiment une société d'apartheid, alors que pour l'instant, on est dans du pseudo-apartheid. Hein. Donc voilà, alors bien évidemment... cette loi exclut de manière raciste les 18-21, parce qu'on n'a pas bien le chiffre, pourcent de ceux qu'on appelle officiellement les Arabes israéliens. Alors les Arabes israéliens, ce sont les habitants de cette région qui n'ont pas été assassinés ou expulsés par les Juifs en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Donc c'est les habitants historiques de la Palestine, de cette région en fait, la Palestine historique, c'est-à-dire le grand truc là qui englobait aujourd'hui la Cisjordanie, la bande de Gaza et Israël. Ce sont les vrais habitants, enfin les habitants historiques, les vrais habitants. Alors il n'y avait pas qu'eux, hein, il y avait aussi déjà des implantations juives, etc. On ne va pas être révisionniste non plus. Enfin, historiquement, ils sont là depuis longtemps. Eux, par contre, donc, ils sont définitivement exclus. D'ailleurs, la langue arabe, qui jusqu'à maintenant jouissait du titre de pseudo-langue officielle à égalité avec l'hébreu, n'a plus ce titre-là, puisqu'il n'y a qu'une seule langue officielle, qui est donc l'hébreu. L'arabe, c'est une langue avec un statut spécial. Alors, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ce statut spécial. Voilà. Alors, il y a de l'opposition. Ça a réagi quand même. Alors, au sein d'Israël, bien évidemment, c'est les représentants de ces fameux Arabes israéliens qui ont critiqué la loi en disant que c'est une loi discriminatoire. C'est une loi qui va instrumentaliser ou généraliser le racisme d'État, qui est déjà très très fort hein, en Israël. Il y a l'opposition travailliste aussi qui s'est exprimée en disant que c'était une aberration, etc. Certaines communautés comme les Druzes ont été choquées, alors que eux ils sont plutôt proches du pouvoir israélien. Là, ils sont complètement exclus de l'État d'Israël. Alors, on rappelle que cette loi, c'est une loi forte qui a une force. Une forte plus importante qu'une loi française, parce qu'en fait il n'y a pas de constitution. Donc cette loi, qui est considérée comme une loi fondamentale, elle prend la place de l'absence de constitution d'Israël. Donc c'est un truc très très fort qui a été voté. Donc voilà, ça inquiète aussi les gens qui défendent la démocratie en Israël. Alors pour l'instant, pas de réaction, monsieur Macron n'a rien dit, alors qu'il ne dit mot consent, donc on verra si d'ici demain il y a un communiqué, sinon c'est qu'il est bien évidemment d'accord. L'Union européenne non plus. Alors l'Union européenne s'était mobilisée pendant quand même le vote pour essayer de au moins de virer l'article sur les villes interdites aux non-juifs. Et alors ça réagit un petit peu officiellement, en tout cas déjà du côté des États-Unis d'Amérique, non pas du gouvernement, rien à attendre du gouvernement de Trump, mais de deux grosses structures américaines, l'American Jewish Committee et l'Union for Reform Judaism, donc les deux plus grosses structures de juifs américains qui ont fait des déclarations, qui ont dit qu'ils étaient outrés de cette loi, qui eux-mêmes, en tant que juifs américains, condamnent la loi en disant qu'elle est discriminatoire contre les Arabes et contre toutes les minorités. Enfin voilà, il y a une grosse condamnation de la part de ces deux groupes les plus importants de juifs américains. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu tout, c'est quand même triste. C'était la voie empruntée par Netanyahou, on l'attendait cette loi. Il a fait le tour un peu des fachos en Europe, parce qu'il a fait ami, alors notamment il a fait ami avec un croate qui était du côté des nazis, faut quand même le savoir. Netanyahou, il est prêt à faire des alliances avec des antisémites pour faire passer sa politique. Il est allé en Hongrie, tout ça, il fait des amis avec l'extrême droite européenne qui est plutôt antisémite, tout ça pour avoir des alliés, alors que dans son pays il est juste membre de l'extrême droite normale. Il n'y a pas d'extrême antisémite forcément en Israël, bien évidemment. Donc voilà, c'est triste, c'était inévitable, mais c'est triste.
Alors, on va continuer avec les barbares. Comme je vous le disais, nous allons parler corrida. Alors, si vous lisez de temps en temps, ou souvent, ou toutes les semaines, Charlie Hebdo, vous en avez lu plein de choses sur la corrida.
Sur la petite rubrique sur le côté.
Voilà, exactement, sur le côté vegan, anticipé, défense des animaux, et tout ça, et tout ça.
Luce Lapin, je crois, d'ailleurs. Luce Lapin.
C'est ça, tout à fait. Alors, mais c'est juste pour dire que je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose si c'est le cas. Sinon, c'est vrai que comme nous sommes à Lyon, on n'a pas cette culture corrida. Je fais exprès de dire ça parce que nous allons y venir tout de suite.
Tant mieux.
Alors, ce qui m'amène à vous parler de corrida, c'est deux choses que je vais tenter de vous lier. Mais qui sont liées, en fait. Il faut savoir que un papa est allé avec son fiston de 12 ans à Nîmes voir une exposition. C'était le 21 mai dernier, une exposition gratuite qui était là du 4 au 22 mai à Nîmes. Et nous avons appris que en ce mois de juillet, il a décidé de porter plainte contre les organisateurs, c'est-à-dire l'Union des villes taurines françaises et l'Observatoire national des cultures taurines, sous l'article 227-24 du Code pénal, c'est-à-dire diffusion d'un message à caractère violent susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. C'est une exposition donc proposée par l'Union des villes taurines françaises et l'Observatoire national des cultures taurines. Allez voir les sites internet.
Donc deux lobbies, deux assos qui sont pour...
Oublie le mot assos, emploie le mot lobby.
La torture...
Dans la propagande.
Voilà, pour la torture folklorique des animaux.
Je vais vous donner
des taureaux en particulier, du coup.
De cette exposition, je prends ma respiration, j'ouvre les guillemets et j'y vais. Ça s'appelle le musée itinérant des tauromachies universelles, un regard sur l'histoire du taureau dans les civilisations méditerranéennes, de la préhistoire jusqu'à nos jours.
Ah, parce que la préhistoire, ils faisaient des combats de taureaux.
C'est ça, tout à fait, tu as tout compris.
Serait-il pas un peu révisionniste, ces
gens ? Je le disais, nous ici à Lyon, on est loin de ce principe de la corrida, et donc du coup, on se rend pas compte à quel point il y a des villes qui sont bouffées par cette soi-disant
culture
et civilisation, là, quand même. Hein.
Ouais, civilisation, mon Dieu, de la corrida.
Quand même, de la pratique de la corrida, de la tauromachie. Alors, ce monsieur, en fait, alors, il y a eu des témoignages dans la presse locale, il dit qu'en fait, il est rentré par hasard parce que c'était gratuit, donc il était avec son fils, puis qu'il se promenait, donc pourquoi pas y aller, après tout, c'est pour ça aussi que c'est gratuit, c'est parce que vous avez une chance de rentrer. Et puis qu'en plus, il tient à expliquer que lui, à la base, il n'a pas d'avis sur la corrida, la tauromachie, aucune. Il n'a pas d'avis. Mais alors, il s'est retrouvé, il dit, face à des photos, des films d'une grande violence avec du sang, un taureau encorné, un taureau ensanglanté. Et que tout ça, c'est pas normal parce qu'il n'était pas prévenu pour son fils et qu'il aurait bien aimé peut-être avoir une information avant afin de prévenir et même lui peut-être d'accompagner, même si nous, vous savez, on n'aime pas la censure dans cette émission, mais un enfant... ça s'accompagne, et même qu'on sait un peu tardivement, parce qu'on se retrouve devant quelque chose où il y a du sang, amener, être prévenu soi-même en tant qu'adulte, c'est toujours bien. Mais par contre, ce qu'il dénonce, c'est que c'est une exposition qui a un but de prosélytisme. Alors, il faut savoir que cette exposition, elle est là depuis 3 ans, depuis janvier 2016, depuis l'Alliance anti-corrida. Elle s'est baladée à Béziers, à Bordeaux, par exemple, où là, il y avait un avertissement préalable. Mais à chaque fois, c'est gratuit. Et il faut savoir que à Nîmes, il y a un maire qui s'appelle Jean-Paul Le Fournier, qui est là quand même depuis 2001. Il est chez les Républicains. Pour dire qu'il est bien installé quand même ce monsieur. Et alors pour lui, la civilisation nîmoise se doit d'avoir de la corrida. Et donc à Nîmes, la ville a invité les 400 écoliers du CP au CM2 à aller découvrir cette exposition.
Ah ouais, pas mal.
Ah oui. Il paraît qu'il y a eu un week-end d'initiation à la tauromachie avec célébration de la culture taurine. Je cite, il paraît que c'était gratuit, que ça avait été organisé par la mairie et les clubs taurins, parrainés par un torero espagnol, et qu'il y avait à la fin une corrida. Ça, c'était le grand bouquet final. D'après l'Union des villes taurines françaises et l'Observatoire national des cultures taurines, la corrida est pour nos enfants une expérience enrichissante, proposant des valeurs positives et structurantes. Je cite, ce n'est pas de moi.
Mort et la torture, c'est toujours très positif.
À la mairie de Nîmes, on trouve que c'est tout ça très bien, que c'est un marqueur de culture locale. Ça, j'ai lu ça dans la presse, donc je m'imagine que les propos, la presse locale étaient rapportés. Alors, ce que j'ai lu par contre, ça c'était dans le Libé du mois de mai. Dans notre région, la culture du taureau est présente partout, d'après l'adjoint délégué à la tauromachie, parce que oui, il y a un adjoint délégué à la tauromachie, vous ne le saviez pas, moi non plus. Il s'appelle Frédéric Pastor, vous pouvez lui envoyer des petits messages. Chez nous, poursuit-il, dans la cour de récré, les gamins jouent au taureau, pas au foot. Ben voyons bien tout de suite. Donc, il y a des anti-corrida qui se montent au créneau, bien évidemment. Il faut savoir que à Orthez, l'expo a été annulée. Ça, c'est grâce au travail militant de l'Alliance anti-corrida. Il faut être très très clair là-dessus. Et puis, il y a d'autres endroits où, grâce à leur travail aussi, à Guetmo, dans les Landes, la mairie avait encouragé les élèves à aller voir cette exposition qui était aussi proposée. A priori, les établissements scolaires ont refusé d'y emmener les enfants. Et les élèves, les collégiens même, sinon ils étaient un peu grands. Ça, c'est, voilà, c'est-à-dire que les élus étaient pour. Du côté pédagogique, on a dit non. Alors, c'est assez classique à Nîmes d'avoir ce prosélytisme, cette propagande, ce lobby pro-corrida. Il y a l'association Aficionados Practicos qui organise continuellement et avec l'appui financier de la mairie, puis avec tout son soutien moral et... On y va. organise donc des séances d'initiation. Il paraît que ça rapproche les enfants des arènes, que tout ça c'est hyper cool. C'est culturel, hein, tu comprends, c'est dans le, c'est l'ADN, hein. C'est l'ADN des Nîmois. Il y a des animations ludiques et il paraît que dans ces moments, les centres sociaux donc ouvrent leurs portes, organisent plein de choses et tout. Et on leur met des cadeaux, alors on leur remet des brochures sur la tauromachie, des DVD, des CD sur la tauromachie. Enfin, tout est la couleur de la tauromachie, comme ça. Les gamins rentrent chez eux avec tout ça et en plus, on leur a offert du goûter, donc ils ont le ventre plein, ils sont contents. Alors, heureusement, les anti-corrida ont des idées et ça se passe à Bordeaux, puisqu'a priori, à Bordeaux, ben, il y a des choses qui se passent un petit peu différemment. Et dans la même salle, la halle des Chartrons, là où avait lieu cette exposition pro-corrida, il va y avoir une autre exposition qui s'appelle Une autre réalité de la corrida. Enfin, c'est terminé, hein. C'était du 10 au 16 juillet. L'idée, c'était de montrer que oui, il faut abolir les corridas en France et ailleurs d'ailleurs. C'est une exposition qui montrait 180 portraits de personnalités qui ont dénoncé ou qui dénoncent encore la corrida à travers l'histoire. Et puis montrer les conséquences de la barbarie, c'est vraiment qui le dit, hein. C'est le président, un des acteurs anti-corrida qui organisait donc cette exposition à Bordeaux. Et puis il montre les instruments de torture. C'est pas mon vocabulaire, hein, c'est bien sûr des anti-corrida, mais en même temps quand t'as une pique et que tu le fous dans le dos,
c'est un instrument de torture.
Pour jouer, pour le plaisir et pour les festivités, c'est de la torture. Alors à Bordeaux, il y a quand même 14 clubs taurins, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi un soutien finalement, une ouverture de la part de la municipalité. La Fédération des luttes pour l'abolition des corridas espère pouvoir présenter cette exposition dans d'autres villes connues pour leur soi-disant culture de la tauromachie et de la corrida, comme à Bayonne et à Nîmes. Alors moi, je dis à Nîmes, c'est pas gagné. C'est-à-dire que je pense que la municipalité n'est pas prête de prêter une salle. Et je pense même qu'elle va les emmurer. Mais je le suis de tout cœur, avec les anti-corridas.
Il y a une dernière petite info avant de passer à Arles et aux rencontres photographiques. Un petit mot pour revenir sur la polémique qui dure là depuis un petit moment, qui revient régulièrement sur la privatisation des barrages hydrauliques que possède EDF. En fait, c'est une grosse partie du secteur hydraulique. Alors, contrairement à ce qu'on laisse entendre, hein, aussi bien les défenseurs que les autres, c'est pas l'ensemble des barrages hydrauliques qui sont concernés, puisqu'il y a déjà une partie des barrages hydrauliques qui ne sont pas chez EDF. On a un exemple très connu à Lyon, parce qu'on a la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, qui possède une grosse quantité de barrages, sur le Rhône notamment, qui sont donc, et c'est une entreprise indépendante. Voilà. Bon, c'est juste pour préciser ça. Alors aujourd'hui, EDF possède une grosse partie des barrages historiques qui ont été construits avec l'argent de l'État français. Parce qu'à l'époque, EDF était une entreprise publique. On rappelle aujourd'hui, c'est une société anonyme, EDF, avec beaucoup de capitaux publics, certes. Et que ces barrages, c'est le peu d'électricité verte que fait EDF. C'est à peu près 12%. Hein, parce qu'on rappelle que EDF, c'est à peu près 79% d'électricité d'origine nucléaire, celle qui fait des déchets dangereux pour plusieurs centaines de milliers d'années. Il y a quelque chose qui est lancé par le gouvernement d'Édouard Philippe, l'idée de donner à la concurrence, alors de vendre quelque part à la concurrence, le secteur hydraulique possédé par EDF. Alors, ils se servent d'une excuse qui est EDF est dans une position dominante en France et avec l'ouverture sur les marchés, il faut casser le système dominant. Alors, moi, je suis plutôt pour quand une entreprise est, parce que EDF, c'est quasi une entreprise privée, est dominante sur un marché, il faut effectivement la casser pour empêcher, pour qu'il y ait d'autres acteurs sur ce marché. Le problème, c'est qu'ils s'y prennent mal parce que pourquoi donner le secteur hydraulique. Le secteur hydraulique est amorti, il a été payé par l'argent des contribuables, il devrait rester dans une entité publique. Et on a des exemples, hein, puisque l'Allemagne, la Norvège, la Suède ont donné à des entités publiques la gestion de leur système hydraulique. Donc il n'y a pas d'obligation à privatiser. Il y a une obligation à faire qu'EDF soit moins gros aujourd'hui. Et il y a une alternative à tout ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui dénoncent, comme là on a eu un rapport de la part de Sud Énergie, qui disent oui, il faut que ça reste chez EDF, etc. Eux, ils ne voient pas plus loin que le bout du nez des travailleurs. Ils sont là pour défendre les travailleurs. Ils n'ont pas de vision d'ensemble de ce que c'est que la politique énergétique, malheureusement, et notamment de production d'électricité. On connaît la position position de la CGT Énergie qui est pro-nucléaire par exemple. Mais il y a une solution simple qui a été mise en œuvre un peu partout. C'est d'accord, il faut casser le monopole d'EDF. Eh bien, cassons le monopole d'EDF. EDF, ils ont 58 centrales nucléaires. Eh bien, vendons des centrales nucléaires à des compagnies privées. C'est ce qui a été fait en Belgique. Je vous rappelle que Engie, hein, qui, vous savez, c'était le gaz de France qui ne devait jamais être privatisé. C'était la promesse d'un politique de droite. Engie, aujourd'hui, qui est une entreprise privée, possède Electrabel en Belgique, donc des centrales nucléaires. E.ON en Allemagne possède des centrales en Allemagne, mais aussi en Belgique. Donc il y a cette possibilité-là. Et ça serait finalement assez logique que enlever du pouvoir à EDF, parce que c'est un groupe qui est trop fort, qui impose, d'ailleurs on le voit, il n'y a aucune démocratie sur l'énergie en France, c'est pour ça qu'on est tout nucléaire, c'est parce que EDF, c'est un système totalitaire sur le choix de l'énergie. EDF allié aux grands ingénieurs des écoles, des mines et tout ça, qui imposent leur politique. Donc il faut casser ce truc-là. Et bien évidemment, le gouvernement n'ose pas faire ça. Et pourquoi ils n'osent pas? Parce qu'ils seraient bien emmerdés, parce qu'ils se rendraient compte qu'aujourd'hui, eh ben, c'est pas sûr que quelqu'un ait envie d'acheter les centrales nucléaires. Alors que là, les barrages, ben, y a déjà un groupe suédois qui est sur le coup. Ben, bien évidemment, les barrages sont amortis, il n'y a aucun coût, il y a juste du coût de maintenance. C'est l'électricité super pas chère, ça intéresse le capitalisme. Et les centrales nucléaires, qui sont une aberration économique, les entreprises s'en rendent compte aujourd'hui et personne ne voudrait les acheter. D'ailleurs, des bruits courent que Engie chercherait à vendre depuis des années ses centrales belges et ils n'y arrivent pas. Donc voilà, il y a une hypocrisie de la part de, finalement, de tout le monde qui ne remet pas les pieds dans le panier en disant bah, le gros problème de la France n'est peut-être pas ça. Ça doit rester public, les barrages, mais le problème c'est les centrales nucléaires dont il faut un jour se débarrasser. Et bon, alors finalement la seule solution serait de les fermer. C'est un autre débat. Mais donc voilà, on se sert du prétexte de la position monopolistique ou quasi-monopolistique d'EDF pour donner ou vendre ou louer ou donner pour quelques miettes au privé les barrages qui sont ultra rentables et qui produisent de l'électricité verte. On rappelle que Radio Canut ne consomme que de l'électricité verte grâce à une entreprise coopérative qui s'appelle Enercoop, qui est toute petite face à EDF, mais qui, elle, au moins, est démocratique.
Alors, on va parler photo, si tu veux bien.
Ah oui, il paraît que c'est le thème de la fin de l'émission. Là.
Oui, 49e édition de ces rencontres d'Arles. Je vais vous proposer, enfin, en fait, je vais un peu vous imposer, puisque vous n'avez pas trop le choix, une méthode pour vous raconter ce qu'on a vu et ce qu'on a aimé. On va plutôt fonctionner comme ça. On va commencer par une première partie, si tu veux bien, Laurent, sur une séquence. C'est comme ça qu'appelle le festival les thématiques autour des États-Unis d'Amérique, séquence qui s'appelle America Great Again. Et on a plutôt aimé un certain nombre de ces expositions. Ce qui est intéressant, c'est que là, le festival nous propose une image de l'Amérique par des regards étrangers. Alors, nous avons à l'espace Van Gogh deux photographes avec de la photographie noir et blanc, du portrait, mais très, très, très différent. On a Robert Franck et Raymond Depardon. Raymond Depardon, l'exposition s'appelle Depardon USA 1968-1999. Alors, deux photographes très différents dans leur approche. Robert Franck, il a été un peu détesté par son travail. Il était jugé comme l'étranger juif qui venait photographier l'Amérique. Et oui, le racisme est bien présent. Alors, c'est une rétrospective de son travail, puisqu'il a, à la base, Robert Franck est très connu pour un livre qui s'appelle Les Américains sur sa photographie noir et blanc. Alors, toi, tu as moins apprécié Robert Franck?
Alors, moi, c'est un photographe que j'aime pas du tout, en fait, dans sa manière de faire des photos. Donc, ces photos ne me parlent pas. Par contre, l'histoire qu'il raconte, elle est intéressante. Voilà. En tant que regard, il est belge, hein, je crois.
Il est suisse.
Suisse, voilà. Suisse. Donc, un regard étranger sur les États-Unis des années 50, 60.
Alors, moi, inverse. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il fait de la photographie de portrait sans jamais que ça soit du portrait. Et c'est intéressant aussi parce qu'on a Raymond Depardon qui fait aussi du portrait, mais d'une manière très, très différente, avec une expo très drôle aussi.
Oui, alors, moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à l'expo de Depardon.
Moi non plus, mais c'est toujours plaisant.
Alors, elles sont super classe, les photos de Depardon. Voilà. Moi je trouve ça vraiment. Contrairement à Robert Franck, j'adore Depardon. Sauf qu'on les a déjà vues. Enfin, il y en a plein qu'on a déjà vues. Donc, du coup, et puis il n'y en a pas tant que ça. Donc, voilà.
Mais je trouve que moi,
ça attire le monde parce que Depardon, oui, c'est un peu la classe dans la photo.
Mais je trouve qu'elles sont à voir vraiment dans la continuité parce que ce sont deux méthodes de travail très différentes.
Ah oui, alors du coup, on sort de Robert Franck et on se prend la technique ultra maîtrisée de Raymond Depardon, ce qui n'était pas du tout le cas de Robert Franck.
Non, parce qu'il allait dans la rue, il avait une autre méthode. Enfin, Depardon, il est très posé.
C'est une autre photo, mais alors, c'est une grosse maîtrise.
Avec, par contre, moi, une proposition artistique que j'aime pas bien parce que certaines photos sont très contrastées avec des aplats noirs assez immenses.
C'est les tirages qui sont contrastés.
C'est le tirage, oui, c'est une volonté, ça, très certainement, de vouloir les proposer comme ça. Donc, moi, je pense que c'est deux expositions qui sont à faire en même temps. Et comme vous voyez, on n'est pas du même avis sur Robert Franck, mais c'est aussi un regard sur cette Amérique dont on nous a beaucoup parlé. Et chaque année, on a quand même, finalement, on rencontre un peu ce travail sur les rétrospectives des années 50, 60 et 70, et en particulier aux États-Unis d'Amérique, qui nous montrent une autre histoire que celle qu'on veut bien nous montrer dans les livres d'histoire, ou même celle sur papier glacé qu'on continue à vouloir nous montrer sur les États-Unis. Donc je trouve que à l'Espace Van Gogh, deux expositions vraiment à faire ensemble. Effectivement, remonter, pardon, c'est un petit peu court, mais on sourit toujours, c'est toujours plaisant finalement de faire rapidement cette exposition. C'est pas la priorité, effectivement, cet Espace Van Gogh, mais ça reste, je trouve, très intéressant comme première approche de cette thématique américaine Great Again, parce que c'est assez particulier qu'on est aussi sur une photo noir et blanc. Ensuite, moi j'ai envie de vous parler de trois expositions qui parlent des États-Unis d'Amérique et qui sont toutes les trois très différentes. Une sur laquelle on était un peu avec une certaine ambivalence, qui est une exposition de Paul Graham à l'église des Frères Prêcheurs, qui s'appelle La Blancheur de la Baleine, une partie des séries très très belle, avec du beau portrait, avec des grands formats accrochés. De la photo couleur, et puis une autre série avec un voile blanc que tu n'as pas du tout apprécié. Tu es resté devant les bras ballants, je dois le dire.
Mais c'est voilà, les artistes contemporains qui font de la photo et qui disent ma photo, on voit rien, elle est blanche, mais parce que derrière, il reste quelques traces d'un truc. Moi, ça ne me parle pas, ça n'a aucun sens pour moi, cette expo.
Mais à côté de ça, il y avait d'autres séries qui sont. Alors, il y avait trois séries, sur cette exposition, dont une qui reprend à peu près en même temps les mêmes photos. Les personnages ont un peu bougé et on sent quand même qu'il y a des gens qui s'emmerdent, qui stagnent. Il y a une certaine marginalité aussi qu'on nous montre dans ces photos. Donc c'est aussi un travail assez intéressant avec, pour le coup, un travail que moi je ne connaissais pas de Paul Graham. Et ensuite, on a été voir deux autres expos. Enfin, ensuite, d'ailleurs, on n'a pas fait ça tout seul dans ce sens-là, mais pour vous parler, un travail aussi sur ceux qui sont à la marge, ceux et celles qui sont à la marge aux États-Unis d'Amérique. C'est un travail de Laura Hainaut, qui est une photographe qui s'intéresse beaucoup à la déshérence, beaucoup à ces êtres humains qui semblent être dans la marge continuellement. C'est une exposition qui s'appelle Rédemption.
Oui, c'est un truc assez incroyable.
Elle est partie dans le désert de Californie, là où il n'y a rien, c'est la ville de Slab City, où des gens se sont installés sur les restes militaires.
Oui, et alors il y a encore a priori, l'armée qui doit faire des choses, qu'on voit des avions, on voit des choses.
Mais sinon, sur place, il ne reste que des blocs de béton au sol.
Voilà, et sinon, des trous. Une zone ultra désertique où des marginaux, des gens qui sont complètement à la rue, avec une espèce de gourou, d'ailleurs, très à l'américaine, avec. Jésus, tout ça, machin. Et ils sont là dans des espèces de caravanes ou des mobiles, enfin pas des mobilhomes, c'est la même chose que la caravane, des camping-cars.
Ouais, il y a beaucoup de caravanes quand même aussi.
Et ils sont là, ils sont désœuvrés, on ne sait pas ce qu'ils attendent, alors peut-être le Messie, parce que ce sera le thème d'une autre expo, mais ils attendent peut-être le Messie, on ne sait pas. Mais c'est intéressant de voir ces gens en déshérence. Alors l'expo photo est très bien et en plus il y a un très bon documentaire qui montre l'ennui qui peut régner, parce qu'en fait c'est pas, contrairement à ce qu'on connaît nous, où on a des gens qui sont à la marge du système, les gens à la marge du système qu'on connaît, enfin toi et moi en tout cas, ils construisent quelque chose. On va dans une ZAD à Notre-Dame-des-Landes, c'est des gens qui sont à la marge du système mais qui se réapproprient des choses et qui veulent lutter contre le système et qui construisent quelque chose. Là, on a l'impression qu'ils construisent rien. ils y sont dans une espèce d'attente. Alors c'est au milieu des vents, dans le désert, vous imaginez, il y a de la poussière partout. Ils essayent de faire pousser deux plantes, mais ennemies, mais même... Enfin, il y a... Voilà,
il y a une espèce de non-sens dans chaque geste, un ennui permanent. Et c'est effectivement ce qu'on a appelé des marginaux pendant une période, et sans aucune insulte de notre part, moi on n'est pas à l'extrême droite dans cette émission. C'est-à-dire des gens qui sont en marge de la société, qui
vont à un moment... On a l'impression qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont en marge.
Ben, en même temps, il y a une espèce de pauvreté installée, il y a un jeune qui a fugué, ça on l'apprend dans la vidéo.
Lui, on ne connaît pas sa vie de famille, on peut comprendre qu'il est fugué, qu'il se retrouve là. Bon voilà, les autres, à part aller prier devant leur espèce de gourou...
Et c'est vrai que ce travail de vidéo est très intéressant parce qu'il est monté très simplement. Il n'y a pas de voix, de travail documentaire, de reportage en tout cas sur cette vidéo. Et ça accompagne très bien les photos de Laura Haino. C'est son propre travail. Il faut savoir qu'elle a passé 2 mois dans une caravane elle-même en 2017 avec donc ce petit groupe hein, en plein désert californien. Ça donne de très belles photos et un très beau travail vidéo, vraiment très très intéressant. Et puis la dernière exposition sur cette Amérique tellement géniale, c'est encore une fois un travail d'un étranger, c'est celui de Taizir Batniji, une exposition qui s'appelle Gaza to America, Home Away from Home. Alors moi je dois vous dire que d'abord je voulais boycotter cette exposition parce que c'est à la chapelle du Méjean, c'est-à-dire... Chez Actes Sud,
là où la ministre de la Culture, son mari, il paraît, n'a pas respecté tout à fait la loi.
Bon, je ne peux pas boycotter un photographe, ce n'était surtout pas possible, surtout que c'est certainement l'une des meilleures expositions
ça valait vraiment le coup.
Que nous avons pu voir sur ce festival des rencontres. Taizir Batniji, c'est un artiste palestinien, il est né à Gaza avant la guerre de 67, avant l'occupation israélienne. Et son travail porte beaucoup sur le déplacement, l'identité, les repères, pas forcément la perte de repères, mais les repères.
Alors là, l'expo, elle est en plusieurs parties, puisqu'il y a toute la partie sur Gaza to America, donc sur l'Amérique, on va en parler après, et il y a la partie sur Gaza, où il prend des photos de la Palestine, de la bande de Gaza, essentiellement.
Il y a par exemple une exposition qui s'appelle Les Pères, c'est-à-dire dans les petites boutiques de Gaza, il y a toujours l'image du fondateur, un homme, qui est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, alors parfois c'est derrière une casserole, mais il y a toujours cette photo quelque part dans ces petites boutiques, ces petites épiceries souvent un petit peu pourries. On est quand même un peu à Gaza, il faut le rappeler.
Mais même, pour le coup, ça marche aussi en Palestine, hein, où on a ça dans les boutiques, où le fondateur de la boutique est souvent le père, effectivement le grand-père. Les femmes n'ont pas leur place hein, dans le travail, dans la société palestinienne de ces époques-là. Et ben voilà, elle apparaît. Des fois, apparaît aussi le portrait du grand Abou Mazen, plus connu sous le nom de Yasser Arafat.
On l'attendait, tu l'attendais, toi.
Ouais, mais je me suis dit, c'est bizarre, ça apparaît pas. Puis dans plusieurs photos, on le voit, parce que voilà, c'est une référence pour les Palestiniens.
Il a aussi un travail qui est assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la série sur les annonces immobilières. Le travail de Taizir Batniji, c'est de nous proposer sur le format comme une annonce immobilière. Vous avez en devanture des boutiques une photo avec un petit texte présentant, alors les textes sont en anglais mais enfin si vous,
c'est compréhensible,
hein, pas de souci. Il s'agit évidemment d'une photo de destruction d'un immeuble qui nous rappelle comment la vue sur la mer est magnifique et que c'est pour tant de pièces et que ici vivait avant une famille avec tant de personnes et tout. Et donc c'est pour nous montrer la destruction de Gaza, là où vivaient avant des familles, là où plus personne n'habite. Et c'est une manière de nous parler aussi d'une destruction d'un conflit d'une manière détournée. Je trouve que c'est très très subtil et très bien fait.
Et après, il y a toute la partie sur les États-Unis, parce qu'en fait, il va aller aux États-Unis voir
les cousins.
Parce qu'effectivement, il y a une partie des Palestiniens qui se sont barrés. Hein. Et donc, lui, il a une grosse partie de sa famille qui est partie. Il va voir ses cousins qui ont plutôt réussi. Hein. Et, c'est des gens qui sont médecins.
Ça casse le code de l'immigré qui aurait fui la guerre et qui s'en serait pas sorti. Là, c'est pas le cas.
Il y en a qui ont immigré sûrement dès 48-49. Donc, forcément, ils ont migré il y a longtemps. C'était a priori la classe moyenne, puisqu'ils avaient déjà commencé à faire des études. Ils ont pu continuer. Il y en a au moins 2 ou 3 qui sont médecins dans sa famille aux États-Unis. Et donc, on voit un petit peu Ben voilà, des Palestiniens, la première, la deuxième génération, il y a une fille là qui se définit Kadra, comme black arabe. On connaissait pas nous le terme, parce qu'effectivement aux États-Unis, elle est souvent, elle le dit dans une vidéo, elle dit, on dit toujours je suis noire, je suis black en fait.
Mais elle se définit du coup elle comme black arabe.
Ben voilà, elle dit ben moi je suis pas black en fait, même si elle a la peau un peu foncée, mais elle est arabe en fait. Elle est même d'origine marocaine parce que c'est un mix dans sa famille. Ouais. Voilà. Donc elle dit elle prend ce terme qu'elle invente, elle dit je suis une black arabe quoi, parce que voilà, c'est bon,
après enfin, qu'elle reprend comme d'autres.
Mais c'est aux États-Unis où il faut mettre les gens dans les cases, du coup les gens
et
sont un peu,
et puis c'est la différence aussi, voilà. C'est que ce que toi tu disais très bien en suivant cette exposition, c'est que ici en France on sait très bien où est le Maroc, on sait où est la Palestine,
oui, elle raconte que les gens
pas. Effectivement on est de l'autre côté de l'Atlantique, hein, le Maroc les gens savent pas où c'est, même pas d'ailleurs que ça existe à la base, hein, quand même. Donc elle doit expliquer tout le temps de ses origines, en plus elle a des origines multiples, et puis en plus elle a pas envie de mettre la Palestine en avant parce que finalement c'est là où elle a l'habitude d'aller, parce qu'il faut savoir qu'il y a une très belle vidéo là, encore une fois c'est rare, hein, qu'on aime la vidéo, mais là encore on a une qui vraiment nous permet de mieux comprendre encore le travail de ce photographe. Elle explique qu'elle a l'habitude d'aller au Maroc avec sa maman parce qu'elle elle peut y aller.
Oui, alors qu'en Palestine, enfin à Gaza, elle n'y est jamais allée.
Et par exemple, là, elle dit qu'elle est trop jeune pour y aller. Elle aurait même du mal à parler à la famille là-bas, à arriver à avoir un contact solide et fort et sincère avec cette famille qu'elle ne connaît pas, dont elle ne connaît pas la culture. Donc c'est très intéressant. Et ce travail de Tazir Badinji, il nous montre à la fois effectivement là-bas et ici. Ici et là-bas, c'est-à-dire comment on peut être à la fois déraciné et puis à la fois très enraciné.
Oui, parce qu'ils sont très américains maintenant.
Et comment ils sont très américanisés.
C'est impressionnant.
Et ils ont une belle maison avec les colonnades, c'est très arabisant. Et en même temps, il y a une jolie piscine, très américaine, à la Floride. Et ce travail-là, il nous montre effectivement ce mélange, mais vu du côté des États-Unis d'Amérique, et qui pour nous, peut-être européens et français, peut être un petit peu surprenant dans cette approche. Mais du coup, c'est bien, je trouve que ça nous élargit nos horizons et la manière dont on se perçoit les uns les autres.
Ouais, c'est une expo qui est vraiment bien, les photos sont bien. Voilà, on apprend plein de choses, c'est à la fois documentaire et artistique. C'est un photographe qui a un gros vécu, donc il a plein de choses à dire.
Je propose maintenant qu'on parle de l'année 1968. Là, d'ailleurs, je continue à suivre un petit peu les propositions du festival qui nous a fait une thématique « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». On a vu deux expositions sur cette thématique que nous avons bien aimé suivre, qui sont plutôt assez, d'ailleurs, documentaires. Avec du reportage, c'est assez bien monté, il faut le dire. Une qui est assez classique, on limite.
Sur Monsieur Santi, tu veux dire ?
Oui, sur les barricades, expression, répression, 1968, quelle histoire !
Avec beaucoup de photos de la police.
Et oui, c'est ça qui est marrant, ce sont les archives de la préfecture de police de Paris, de Paris Match, de Gamma, accompagnées de textes qui réexpliquent les photos. Donc on a les photos assez classiques, noir et blanc, qu'on connaît maintenant bien. Mais ce qui est très intéressant, ce sont les petites fiches de la préfecture qui accompagnent ces photos, et ce sont des photos où il y a le classeur autour, qui ont été sortis des archives de la préfecture. Donc là on est sur quelque chose de très historique, de très patrimonial dans cette approche. Si vous connaissez le travail de Papy, que nous saluons dans ce beau quartier de la Croix-Rousse, la partie sur la sérigraphie et les affiches de 68 vont pas trop vous intéresser.
Puis c'est archi déjà vu.
Mais sympa, par exemple, vous terminerez avec le travail de Marcello Brodsky, qui est un artiste argentin qui prend des documents d'archives et qui les recolorise en partie avec des petites annotations. C'est très intéressant. Voilà, donc ça se passe dans un nouveau lieu qui s'appelle La Croisière, puisqu'on y reviendra à la fin, mais c'est vrai que les lieux sont un petit peu éclatés, on y reparlera en terminant. Et puis, un beau travail de documentation au musée départemental d'Arles. Alors ce musée est absolument horrible de l'extérieur, mais il faut y rentrer. Et ici, un musée dans lequel ça pue, parce que...
Ils ont mal géré les égouts.
Et d'année en année, ça n'a jamais été possible, a priori, de faire des travaux. Ça pue donc le caca, sachez-le. Venez donc avec le sambon. Donc ça s'appelle Paradisiaque, de Fos-sur-Mer à la Grande Motte, entre rêve et béton. Et nous rentrons dans une longue exposition. Prenez votre temps, et faites passer en courant, où se mêlent images photographiques d'archives, publicité d'époque, peu de texte explicatif, un petit peu de la vidéo aussi. Et là, donc, ça revient sur l'aménagement du delta du Rhône qui a été décidé par l'État et appliqué dès, donc, en 1968. C'est De Gaulle, hein, à l'époque. Et donc, on a le choix entre Fos-sur-Mer, la Grande Motte et la Camargue. Et là, il va falloir répartir ces trois lieux, un port industriel, un lieu touristique et un parc naturel. Et malheureusement, c'est la Fos-sur-Mer qui a hérité du port industriel, la Grande Motte de la partie touristique, et la Camargue est devenue une île. Sauvegarder, protéger, en tout cas c'était l'idée. Là où c'est intéressant, c'est de suivre la construction à travers les photographies d'un certain nombre de photographes. Moi j'ai beaucoup remarqué le travail de Jacques Windenberger. Je ne sais pas si toi, d'autres photographes t'ont marqué dans cette exposition. En tout cas moi, lui il m'a beaucoup marqué. Donc on suit ce travail, cette proposition à la regard de photographies qui s'ouvre d'abord par des archives de journaux où on nous explique que tout ça, ça va détruire le coin, ou alors ça va être absolument génial. Et à chaque fois, tout le monde nous parle des moustiques. Ouais. Ça, c'est le grand sujet, a priori.
C'était le thème un peu de la région, c'est envahi de moustiques.
Mais déjà, à l'époque, on nous parlait environnement, de protection, et de, surtout, la masse touristique. Qu'est-ce qui va se passer en... La Grande Motte, je vous rappelle que c'est la station balnéaire avec
les immeubles en pyramide.
Le truc moche.
Oui, qui est à la fois moche et qui est, avec le recul, qui est assez caractéristique des constructions de cette époque-là.
Des années 70,
c'est,
après. Ouais.
C'est assez incroyable, quoi. C'est moche, mais largement plus artistique que la Costa Brava, par exemple. Donc là, il y a eu un vrai projet architectural qu'on va pas défendre. Mais
l'art peut être moche.
Oui, non, mais il y a un vrai projet de réflexion sur.
Sauf qu'il faut se rappeler que c'était une lande. C'était une lande, il n'y avait rien, et que sur le rien, on a tout construit. Un port industriel, une station balnéaire, et qu'on a cadré aussi, finalement, le parc de la Camargue qui ne l'était pas du tout jusqu'à présent.
Voilà, donc il y a une opposition, on suit l'opposition un peu à travers les articles de journaux, et après on suit l'installation de ces trois zones, alors sur la Camargue pas grand chose puisque c'est juste une zone protégée, et puis surtout la construction de la Grande Motte et la construction du terminal, du port et de la zone industrielle de Fos-sur-Mer qui est une catastrophe environnementale.
Avec l'arrivée des ouvriers.
Et avec les ouvriers qui se retrouvent, à faire comme aux États-Unis, à vivre dans des caravanes, parce que bien évidemment, on fait venir des milliers d'ouvriers pour construire cette zone, il n'y a pas d'habitat construit, donc ils vont loger dans des villages avec des caravanes, des villages qu'ils vont construire eux-mêmes, enfin voilà, dans des situations ultra précaires. On n'est pas loin de l'esclavagisme, en tout cas dans les situations de précarité de vie.
Pas d'eau courante, pas d'électricité, enfin faut se rendre compte d'une certaine situation. Il y a des photos donc qui montrent les luttes des ouvriers sur place, les mouvements syndicaux, des photos qui nous montrent la révolte en Occitanie. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas des étrangers, c'est-à-dire les touristes français. Le régionalisme. On nous montre aussi les publicités. Moi, je les trouve géniales, hein, parce qu'il y en a qui sont sur l'époque. Le début des années 70. On explique, madame, vous allez bien vous en sortir parce que tout est fait pour améliorer votre vie. Vous n'allez plus être obligé de faire les tâches ménagères en venant ici à la Grande Motte.
C'est très marrant. Il y aura des gens qui vont nettoyer à votre place.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la Grande Motte continue à faire encore de la propagande, puisqu'il y a eu un reportage sur TF1, c'était cette semaine, au journal de 20h, où on nous parle d'architecture audacieuse, de détails cachés.
C'est une vraie architecture audacieuse.
Oui, enfin, sauf que c'est 4 minutes qui sont
C'est un truc qui va...
Excuse-moi.
Dans le tourisme de masse sur la Méditerranée, par rapport à la Costa Brava, on a construit des HLM en hauteur, sans architecte réellement. Là, il y a un vrai projet architectural qui est un peu à l'image des cités qu'on pouvait avoir à Firminy, par exemple, où le premier étage, c'était les commerces, au-dessus, il y a les gens qui habitent, il y a un vrai choix esthétique et tout. Alors, bien évidemment, c'est lié au tourisme de masse et c'est assez atroce, mais il y a quand même une vraie créativité dans le truc. C'est assez incroyable, c'est unique en France, cette cité, ces pyramides d'immeubles pour touristes là. Après,
il y a des gens qui vivent, hein. Dès les années 70, on y a déplacé aussi des gens pour en faire aussi une habitation.
Oui,
mais l'idée, c'était quand même de développer, aujourd'hui c'est encore le cas, mais c'était l'idée de développer une station balnéaire. Le problème de la Grande Motte, c'est pourquoi on retrouve des reportages aujourd'hui sur TF1, c'est qu'il y a une population vieillissante et qu'il faut montrer qu'il fait bon y vivre et que donc il faut peut-être amener aussi une certaine jeunesse, parce que ça a un peu perdu quand même quand même la cote.
Mais c'est marrant, cette expo historique sur ces typiques du début des années 60, ou des années 60, où l'État décide des aménagements du territoire français. On me dit, là, il y a le tourisme, là, il y a l'industrie,
c'est
là, il y a...
Ça, ouais.
Et c'est... Alors que c'est très proche, ils auraient pu inverser, d'ailleurs. Hein. Alors, la Camargue, non, c'était compliqué, mais ils auraient pu faire la zone industrielle à la Grande Motte et faire la zone touristique à Fos-sur-Mer. Ils décident comme ça, à Paris, dans un bureau, un mec qui n'a jamais habité la région, qui décide de faire tel truc à tel endroit. Et ça, aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est 50 ans plus tard, ça n'a pas bougé, c'est marqué, c'est fini, c'est définitif presque, hein, en tout cas à l'échelle humaine. Peut-être que dans 200 ans, ça ne sera plus le cas, mais voilà, c'est resté. Donc c'est intéressant cette expo, c'est une vraie expo du patrimoine sur voilà, l'histoire de l'aménagement autoritaire hein, de fonctionnaires parisiens là, qui décident des choses à la place des habitants.
Alors, on va parler de l'une des rares expositions très artistiques que nous avons retenues, qui nous parle de Braque de Vermin. C'est pas ce que c'est un chien.
Non, mais c'est énorme. Alors, tu voulais pas y aller.
Non, mais c'est très bien, Pascal. Je dois le dire, que ces rencontres, il y avait des fois, j'étais un peu dubitative. Et que j'ai eu quelques belles surprises. Il y a des surprises dont on va pas vous parler ce soir parce qu'on n'a pas le temps. On n'a fait qu'une petite sélection hein, des expositions. Hein. Mais celle-ci, effectivement, j'étais surprise. Et il faut savoir que nous avions beaucoup de place puisque pendant que les gens étaient en train de regarder un truc avec des êtres humains qui couraient en short, nous avions toute la place pour nous pour aller voir des expositions.
Bon, on était tranquille.
Et nous avons pu découvrir ce travail absolument sensationnel de William Wegman qui s'appelle Être humain. C'est au palais de l'Archevêché, donc en plein centre de Arles,
sur la place de la République,
sur la place de la mairie. C'est un photographe américain qui fait tout plein de choses, hein, William Wegman, mais il aime beaucoup son chien, ses chiens d'ailleurs.
Voilà, c'est aussi l'affiche hein, du festival des rencontres de la photo.
Donc il met en scène. Décrire.
Ouais, hein.
Vas-y, décris. Non,
en fait, il met en scène son chien. Son chien, il a un regard, un truc de dingue. Enfin, je veux dire, nous, on avait vu que la photo de l'affiche. Et on s'est dit, bon, bah, c'est bon, il habille son chien comme un être humain, ça va pas plus loin que ça. En fait, l'expo, elle est énorme. D'abord, c'est très drôle. Parce qu'il arrive à mettre en scène. Alors, il a un chien qui est ultra photogénique et qui aime se faire prendre en photo. Parce qu'il faut. C'est des poses, tout est fait, bien organisé, tout ça. Le chien, il accepte de jouer le jeu. Le ou les chiens, parce que des fois, il y en a deux.
Alors, pour les antispécistes, il aime ses chiens.
Oui, je tiens à vous le préciser. Il n'utilise pas l'animal, mais. Voilà, mais non, justement, c'est un truc presque antispéciste. Parce que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, cette expo. Ça questionne finalement de ce qui fait l'être humain, de ce qui fait l'animal. Et là, lui, il casse le code, puisqu'il fait prendre des poses et des vêtements, etc. Humains à son chien, ou à ses chiens, et ils deviennent presque humains, quoi. Et c'est pas des montages Photoshop, quoi. Il l'a fait en vrai, il fait poser l'animal, et c'est très drôle. Il y a tout, il y a de l'humour, il y a ce questionnement du rapport qu'on a aux animaux et des choses comme ça. Voilà, et c'est c'est assez typique de Arles. Au départ, Arles, c'est quand même. Il y a un peu d'expo, comme on a parlé, avec un contenu politique, avec un contenu journalistique, mais, ou de reportage, mais c'est surtout des expos d'artistes. Et là, on a un vrai artiste qui est assez fort et qui voilà. On y allait, bon, on n'était pas super emballés. Alors, finalement, ça marche super bien.
Il n'y a pas que ça, c'est que les photos sont très très belles. Il y a une couleur absolument magnifique au niveau de ces formats.
Le chien est génial.
Le chien est génial, certes, mais les photos sont très très belles. C'est-à-dire qu'il y a un choix esthétique de la couleur, du fond, un travail de la photographie, de la peinture, du dessin autour de ce chien et de ses vêtements. Tout est très coordonné, c'est très très beau. Il y a beaucoup de sens aussi entre le nom de la photographie et ce qui se passe à l'intérieur de cette image. Moi, je vous conseille vraiment ce travail de William Wegman hein, parce que là, pour le coup, c'est ça, on a enfin une exposition artistique très très belle, qui est effectivement drôle comme tu le disais, mais qui est parfois aussi assez poétique, parce que ce chien a l'air mais d'une gentillesse, on a envie de lui serrer la papette, il faut le dire quand même, et puis vraiment ça raconte quelque chose, alors que je pensais que ça ne racontait rien et qu'on allait être devant une œuvre contemporaine
gratuite un peu.
Voilà, tout à fait, tu peux le dire.
Et bien
là c'est pas le cas, c'est très très bien, ça nous questionne sur c'est qui est humain, c'est quoi qui est l'être humain. William Wegman au Palais de l'Archevêché, être humain.
D'ailleurs, c'est pas l'expo qui nous questionne sur l'être humain. Il y a une expo, on t'avait peut-être pas prévu d'en parler, on va juste dire 30 secondes, sur le transhumanisme. Donc, ils mettent en scène des photos qui sont symptomatiques du transhumanisme. Alors, pas toujours dans le sens négatif, dans le sens aussi de l'aide pour
Mathieu
la santé.
Gassouf.
Voilà. Et alors, ça nous questionne pas trop, nous, parce qu'on a déjà beaucoup réfléchi au sujet, mais je pense que, voilà, ça pose la question aux gens. Et c'est intéressant, ces expos qui, à travers la photographie et à travers l'art, parce que c'est des photographies qui ont un sens artistique, nous permettent permettent aux visiteurs et aux visiteuses de se poser des questions. Voilà.
Et je trouve juste que sur cette exposition, les photos sont très belles, mais que le texte prend le dessus sur la photographie et que ça nous, j'ai manqué d'envie et de recul pour regarder ces photos qui sont pourtant très belles parce qu'il y a un choix artistique. Toutes les photos ont le même style. On sent que derrière, il y a un travail de photographe. Mais voilà, c'est pour ça que je n'ai pas retenu forcément cette exposition, même si le travail et le contenu est assez intéressant. Je vous propose de terminer avec plusieurs expositions un petit peu au niveau international. Vous savez qu'il y a le festival va chercher des photographes du monde entier pour nous raconter des choses qui se passent dans le monde entier. Alors, tu nous parlais de Messi tout à l'heure. Je vous propose de commencer par cette exposition à l'église Sainte-Anne de Jonas Bendiksen. Une exposition dont, là encore, ce n'est pas tant les photographies qui m'ont marqué, mais la manière dont cette exposition a été montée. Jonas Bendiksen, il a été rencontré des hommes
qui se prennent pour Jésus, enfin, qui sont persuadés d'être Jésus.
La réincarnation.
De Jésus, oui, pas forcément. S'il existait, il est mort il y a longtemps.
Il a rencontré sept hommes qui sont donc le Messie redescendu sur Terre. Alors, il en fait des portraits de groupe et des portraits intimistes.
Oui, puisque on a notamment en Russie là, quelqu'un qui a plusieurs milliers d'adeptes. Donc, du coup, là, il y a des grosses photos avec des processions où tout le monde suit cette espèce de gourou. Ce gourou, c'est un gourou. Et puis, d'autres endroits où on est, notamment un gars en Afrique où ils sont cinq autour de lui. Quoi. Il a cinq disciples, hein, donc ça va pas bien loin. Et il y a un peu tout comme ça. Il y a de ces gens qui sont persuadés d'être la réincarnation de Jésus-Christ. C'est drôle, même à leur dépens malheureusement, hein. Et c'est triste à voir hein, quand même cette...
Vissarion, il s'appelle ce messie russe, avec une très belle photo énorme où il est...
dans la neige là.
Oui, non mais il y a une photo de scène aussi.
Ouais. Ah oui, voilà. La scène, le repas là.
Oui, ouais. C'est ça, tout à fait, avec... Le petit C au devant. Donc, cette approche vraiment très intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jonas Bendiksen, il a cherché à rencontrer ces messies, à passer du temps, hein, et pas juste à faire de la photo, à essayer de comprendre. On sent que, bon, il a mis une certaine distance et que parfois, il n'a pas tout saisi, mais il a un bon fond, Jonas. Parfois, il n'a pas réussi à avoir des rencontres. Donc, il nous propose une autre approche, mais quand même, souvent, il a pu passer du temps et donc avoir une photo de proximité. Et cette exposition est assez intéressante de ce côté-là.
Alors, tu dis que c'est dans l'église Sainte-Anne, c'est des anciennes églises, hein, parce qu'il y a pas mal d'anciennes églises qui sont plus utilisées, qui servent aux expos photos. Du coup, là, le sujet s'y prête pas mal.
Oui. On pourrait parler, en continuant à parler d'église, du travail d'Anton Roland Loeb à Ground Control. Alors là, on est dans la partie friche hein, des expositions. Ça s'appelle Mobile Church. Alors, c'est quelque chose que je ne savais pas sur l'histoire roumaine.
De déplacement des églises sur rail. De quelques mètres, quelques dizaines de mètres.
C'est Ceausescu qui, dans les années 80, veut refaire un beau grand Bucarest, belle capitale roumaine, va raser une partie hein, de la capitale et va, ça allait savoir pourquoi, il y a quelques mini-églises qui vont survivre à cette décapitation.
Oui, alors, moi je ne comprends pas pourquoi il ne les détruit pas, il les déplace pour les cacher, pour les mettre de côté.
Églises vont être déplacées de quelques mètres.
Sur rail,
sur
c'est
rail.
Un truc de dingue.
Et ce qui est très beau, c'est que ce travail d'Anton Roland Loeb, on a la photographie actuelle de cette église, de ces églises coincées.
Au milieu de buildings modernes et moches.
Oui, enfin, modernes, j'aurais dit soviétiques.
Oui, mais...
Voilà, enfin, récent, effectivement, moderne, mais on n'est pas dans du building, on est plutôt dans l'appartement, de la construction soviétique. Donc, ces photos d'Anton Roland Loeb accompagnaient des plans de déplacement.
Et des photos, des fois, d'articles de l'époque où on voit les rails qui ont été posés dessous. Enfin, vous imaginez, c'est des milliers de tonnes qu'il faut déplacer. Hein.
C'est un très, très beau travail que nous propose ce photographe. À la fois, un travail, encore une fois, de mémoire. Et puis, on est sur l'absurde.
Oui, non, mais c'est une absurdité historique à prendre compte. Bon, c'est la Roumanie de Ceausescu, ça n'a pas de sens de toute façon.
Mais là où il n'y a pas de sens aussi, moi je vais renvoyer ça au cloître Sainte-Tropine, donc c'est pas tout à fait à côté. Le travail de Grégor Seller sur le village Potemkin, c'est un photographe qui s'intéresse à la manière dont on masque ou on crée des fausses villes. Donc, soit il va partir là où Poutine s'est baladé et où il y a des toiles.
Bon, sur les immeubles moches, on met des grandes toiles pour faire croire qu'il y a un bel immeuble avec des belles vitres.
Soit dans des villes qui ont été reconstruites par l'armée américaine,
ou l'armée française.
Faire comme s'ils étaient en Irak.
Voilà, pour faire la guerre, pour s'entraîner à la guerre.
Et donc, c'est ce travail-là qu'il a été photographié. C'est assez impressionnant, parce que c'est quand même construire du rien. Parfois, c'est juste des façades en bois. Hein, avec, vous savez, les poutres pour tenir.
C'est digne d'un décor de cinéma, quand vous avez vu les décors des westerns. Voilà, c'est un peu ça, quoi.
Et là, encore une fois, on est dans l'absurdité.
Oui, du coup, les photos sont surréalistes, quand même.
Ah, c'est assez surréaliste. C'est assez beau, il y a un travail aussi assez laiteux, assez pastel dans ses couleurs du travail de Grégor Seller. C'est une très belle exposition, pas très longue, qui est très intéressante. Donc, le village Potemkin, à voir, associé à Mobile Church, à Ground Control, hein, tout ça avec le Messie avant, on vous l'a dit. Et puis, j'avais envie aussi de parler du travail de Olga Kravets, Maria Gmorina et Oksana Yushko sur Grozny. Ouais. Très belle exposition.
Sur une chose horrible, tu veux dire ?
Mais les expositions, les photos sont très très belles. Ouais.
Donc, Grozny, capitale de la Tchétchénie.
Voilà, exactement.
tout détruit.
Là, alors, l'idée de ces expositions, c'est de nous montrer, est-ce qu'il y a une reconstruction à Grozny ? Est-ce qu'elle a eu lieu, cette reconstruction ? Et si elle a eu lieu, où elle en est ? Donc, c'est un travail qui tourne beaucoup aux hommes.
Ouais, une société très masculine. Très inégale. La femme, finalement, n'a pas sa place. En tout cas, dans l'espace public.
Alors, on nous montre du bling-bling, les 4x4 flambant neufs, et en même temps, des quartiers tout pourris, la boue, des endroits qui n'ont pas encore été... reconstruit.
Les grandes affiches avec Vladimir Poutine.
Et puis on nous parle surtout de Ramzan Kadyrov.
Voilà, le dictateur en chef.
Ah,
fils de l'ancien dictateur.
Oui, bah, ça, dans la famille, hop, ça se reproduit. Et c'est aussi nous montrer un endroit du monde qui a eu du mal à se reconstruire. Et on nous montre aussi une chose... On nous parle de la guerre. À travers cette reconstruction, on nous parle de la guerre, parce que par exemple, on va montrer des photos où y a des jeunes aujourd'hui qui ne trouvent pas de travail. Alors, il n'y a pas de travail en Tchétchénie, premièrement, mais deuxièmement, il y a une génération, deux générations, qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'ils ont vécu que la guerre et qu'ils n'ont pas été à l'école, qu'ils n'ont pas fait des études secondaires et que donc, aujourd'hui, ils n'ont aucun bagage, aucun métier et ne trouvent donc pas de travail. Et que par là même, le pays et Grozny n'arrivent pas à se reconstruire parce qu'ils n'ont il n'y a même pas eu des cours d'art, des cours de musique. Tout s'est perdu. Et c'est sur deux générations que les choses se sont perdues. Soit parce que les anciens sont morts et n'ont pas pu se transmettre. Soit parce qu'il n'y a plus rien à transmettre. Et parce qu'eux-mêmes n'ont rien appris. Et donc, c'est une ville qui ne peut pas se reconstruire sur quelque chose qui n'existe pas. Et donc, c'est ce travail photographique avec trois photographes qui, moi, je trouve, sont très très belles photos. C'est à Monoprix. Et oui, parce qu'il y a des lieux nouveaux à Arles. Et c'est là-dessus que je vais terminer.
C'est au deuxième étage du Monoprix.
Oui, alors dans un endroit absolument pas...
désaffecté,
oui. Oui, qui est absolument désaffecté. Il faut savoir que Le Monde dit qu'il y a une cacophonie pour les visiteurs cette année à Arles. On vous l'avait raconté l'année dernière, le festival perd ses ateliers.
Oui, parce qu'ils sont, ils ont été rachetés en partie par une prédatrice de l'art, hein, une milliardaire.
C'est la Fondation Luma.
Voilà, c'est ça. Tu l'appelles comme tu veux, mais c'est son vrai nom. C'est une prédatrice quand même. Et du coup, ils se retrouvent dans des lieux improbables, mais c'est ça qui est sympa aussi avec.
Alors, effectivement, la cacophonie, elle est pas lisible pour certains visiteurs qui ne se rendent pas compte que les ateliers, à part l'atelier des forges, les autres ateliers ne sont plus. Compris avec le billet du festival. C'est-à-dire que la Fondation Luma a réussi à recréer un mini-festival à côté, c'est quand même assez incroyable, que nous n'avons pas été voir, je vous le dis, tout simplement. Mais beaucoup d'espaces sont donc esséminés à l'intérieur du vieux Arles, dans le centre-ville, avec des espaces de friches qui ne sont pas des lieux artistiques, et puis effectivement ces lieux habituels sur les anciennes églises, qui sont des lieux qui ont l'habitude de recevoir des expositions, ou en tout cas des activités culturelles et artistiques. Donc ça, on a un peu l'habitude. Et puis, il y a effectivement des lieux comme cet étage de Monoprix, qui est un truc avec le béton. Hein. Vous mais avez encore les moellons qui datent des années 60. Il fait extrêmement chaud. Voilà, vous traversez donc le rayon textile de Monoprix avec les petites culottes, et puis vous montez un escalier, et puis bah, vous arrivez dans ce lieu-là. Alors moi, je trouve ça a une certaine saveur finalement.
Oui, c'est là où il y avait l'expo sur Grozny.
Voilà, parce que finalement, ça nous fait aussi nous balader dans cette ville, plutôt que d'être dans des lieux uniques où vous passez d'une salle à une autre. Ça vous fait vous balader, sortir d'un lieu, re-rentrer, vous reposer, puis finalement des questions sur ce que vous venez de voir. Vous laissez des temps de latence entre chaque exposition, donc c'est pas plus mal, mais c'est vrai que ça vous fait courir de partout et que si vous n'êtes pas bien organisé, vous allez avoir mal au mollet.
Bah, vous visiterez Arles en même temps. Donc voilà, c'était sur les rencontres de Arles.
Allez-y, c'est un peu cher, comme toujours.
C'est toujours un petit peu cher, mais on découvre plein de photos de plein de genres différents.
De plein de pays différents, voilà. On n'a pas parlé, mais il y avait une très belle exposition aussi sur la génération des photographes turcs qui est obligée de se produire à l'étranger pour montrer ses photos, dont Mathias Depardon, qui avait été arrêté, je vous rappelle, en Turquie, qui a été libéré finalement, mais aussi une jeune génération turque qui expose de partout dans le monde aujourd'hui, mais n'arrive pas à exposer en Turquie, à moins de finir en prison.
Voilà, c'est la fin de ce Canu Info. On se retrouve la semaine prochaine. On est encore là. Alors peut-être demain, vous aurez un Canu Info. Je ne sais pas. Les émissions ont commencé à pas mal partir en vacances à Radio Canu. En tout cas, il y a des émissions qui continuent, notamment La Causerie. C'est l'émission du dimanche soir à 22h à Radio Canu. Et une émission très intéressante, celle du dimanche prochain. On sera le 22 juillet, puisqu'ils reçoivent des membres du comité lyonnais de soutien au mouvement du RIF marocain. Donc un mouvement qui avait un mouvement social, fort, réprimé aussi, pas mal. Donc dans cette région du nord de l'Afrique, et ce sera l'occasion d'en parler donc dimanche soir à 22h sur l'antenne de la plus rebelle des radios dans La Causerie. Voilà.
Et nous, on se retrouve donc jeudi prochain pour la dernière de cette saison 2017-2018. Ensuite, nous allons nous accorder quelques vacances. Ben oui, on y a le droit nous aussi. Et on vous souhaite de rester sur Radio Canu, d'écouter les bandes continues et de continuer à prendre du plaisir à écouter la plus rebelle.
Bye.
Ciao.